Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudeluxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Boudeluxe Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous savez que désormais, Boudeluxe Paris, c'est toute la semaine, du lundi au vendredi, en solo de 13h à 15h. Je vous retrouve et tous les week-ends, je suis ravie de retrouver mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Comment allez-vous?
Très bien. Toujours à l'heure?
Ah bah évidemment, le toujours week-end. À l'heure. Et oui, et cette semaine, vous savez que c'est l'arrivée de l'Apple Watch. Enfin, uniquement chez Colette, le magasin tendance de la rue Saint-Honoré, parce qu'à force de nous l'annoncer, bah, c'est un peu plus compliqué que prévu que l'arrivée de ce petit joujou. Quoi qu'on en dise, le nouveau must-have des geeks bouscule la planète horlogère. Mais dans quelle mesure et que valent surtout les autres montres connectées? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec Grégory Ponce, notre maître horloger venu depuis Genève, notre geek maison Pascal Samama, journaliste à bfmbusiness.com, Philippe Gouzès, directeur général de l'horloger Nixon, et Pascal Michel, représentant de la marque La Mondaine en France. Mais tout de suite, les nouveautés de la semaine.
Boudeluxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Emmanuel, on commence avec notre table de la semaine.
Connectée à sa manière, celle-ci. On n'avait pas vu ça depuis un moment. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas vu ça depuis 6 mois avec l'arrivée de Burger King, Gare Saint-Lazare.
D'accord.
Vous savez, cette espèce de légende
urbaine.
Les fils d'alarme de 300 mètres. Surgit du côté du 133 rue du Faubourg Saint-Antoine, il y a quelques jours, le East Mama, en fait, c'est une trattoria italienne. Ça fait courir tout Paris. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, comment, si ce n'est qu'on a deviné que derrière cette première adresse East Mama, il y avait deux jeunes entrepreneurs sortis d'une haute école de commerce et qui se sont lancés comme cela dans la restauration.
Et qui savent très bien communiquer.
Alors, ils savent excellemment bien communiquer puisque même les foodistas, comme on dit, se font piéger. Et c'est vrai que c'est un public mixé, à la fois des bastochards tels qu'on les connaît, des foodistas, donc des gens de l'ouest parisien, des adolescents.
Mais au final, bon, qu'est-ce que ça donne?
Alors,
un bon italien?
Ce que ça donne? Ça donne une adresse, une trattoria qui flirte du côté de chez Ordisna. J'entends par là qu'ils ont reconstitué à l'intérieur une manière de ruelle sicilienne avec des fausses meules de parmesan. C'est à deux doigts d'avoir le scooter Vespa pour être dans un coin. C'est pas mal, hein? Pour qui aime le jeu, quoi, un petit peu se donner d'une trattoria fantasmée. Mais là où il y a 10 ans, ça aurait été une adresse totalement toc. L'époque a changé, et notamment la folie food, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un principe minimal de gourmandise et d'appétit. Et ces deux jeunes entrepreneurs, pendant 2 ans, ils ont parcouru toute la botte italienne pour sourcer les meilleurs producteurs. Et du coup, dans l'assiette, c'est pas mal du tout, petit miracle. Là où on s'entendait à l'Italie, encore une fois, un peu frelaté, plutôt okay. Bien. Alors avec notamment un calcio e pepe. Le calcio e pepe, c'est des manières de spaghetti qu'on travaille avec une crème au pecorino. J'y ajoute des artichauts, c'est bien vu. Des burrata exceptionnelles, des mortadelles crissantes, caressantes, y compris la panna cotta. Très, très réussi. C'est juste que c'est très bon. Vraiment. Mais vous savez, un restaurant, c'est aussi un environnement, une atmosphère. Et là, l'atmosphère, c'est une vraie fausse Italie. Alors, on y va quand même avant de, je crois, ne plus y retourner. Et qui sait, peut-être dans 6 mois, succès oblige d'en dire du mal. Parce que nos petits entrepreneurs, ils ouvrent déjà une adresse dans 1 mois, rue Oberkampf. Allez-y, maintenant.
Et c'est plus jamais. 133 rue du Faubourg Saint-Antoine et ça s'appelle East Mama. Allez, deux nouvelles boutiques pour le prix d'une et parce qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Vous connaissez la marque La Commune de Paris, 1871. Voilà, marque de prêt-à-porter masculin qui ouvre donc sa première boutique en nom propre. C'est 19 rue de Comines, dans le 3e, donc dans le Haut-Marais, qui n'en finit plus de bouger. Et elle trouve quand même sa 6e bougie, cette marque. Donc voilà, elle a de quoi remplir cette ancienne boucherie. Tiens, Emmanuel, on retrouve le sol rythmé de mosaïque, du parquet bleu et rouge. Vous savez que ce sont les couleurs de la marque. Il y aura un mur dédié aux artistes en fonction des événements et des collabs, parce qu'ils font énormément de collaborations, de collections capsules, comme on dit, voilà, pour découvrir la Commune de Paris. Et puis, toute autre chose, vous vous souvenez, il y a presque un an, le vernis à ongles, la gamme de vernis à ongles, Christian Louboutin.
Ah oui.
Vous vous souvenez, les souliers.
Au départ, ouais, c'est un chausseur, c'est un soulier.
À la semelle rouge, voilà, un formidable flacon de vernis à ongles très élancé, comme ses talons aiguilles. Eh bien, maintenant, Galerie Véro Doda, dans le premier arrondissement de Paris, on retrouve aussi tout cet univers. On est uniquement autour du vernis à ongles. 45 euros le vernis, quand même, je vous le rappelle. On s'appelle pas Christian Louboutin pour rien. En tout cas, une très belle boutique parce qu'elle est signée notamment de l'architecte Pierre Jovanovic, une grande référence en matière d'architecture d'intérieur. Voilà, pour finir jusqu'au bout des ongles. Ce n'est pas du Louboutin.
Le flacon, ça fait combien l'ongle?
Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Sandy Prenoir.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, je ne me suis pas fait les ongles.
Bonjour, 45 euros.
Alors, ça ne va pas du tout. Alors, heureusement, non, c'est parce que vous pianotez toute la journée aussi.
Voilà, c'est ça, sur ordinateur, pour avoir les actus web. Alors, cette nouvelle actualité, vous connaissez l'appli Shazam. On entend une musique, on ne reconnaît pas l'artiste ni le titre. On Shazam pour le trouver et pour bien sûr se procurer le morceau qu'on a choisi. Même principe ici, transposé à la mode. L'appli s'appelle Fashion Marker. L'idée, c'est de dire, on voit à la télé un habit, un vêtement qui nous plaît, on va utiliser l'application pour trouver de quel créateur ce vêtement, un vêtement de quel créateur, voilà, etc. Bon, alors j'ai essayé.
C'est que par la télé.
C'est que par la télé. Il y a deux modes de fonctionnement. Le direct, donc on lance en faisant la chaîne souhaitée. Par exemple, vous regardez quelque chose sur
BFM Business TV.
BFM, voilà, BFM TV.
Ou BFM Business TV.
Voilà. BFM Business, ça marche pas. Il n'y a que BFM TV.
Alors, BFM TV.
Du coup, voilà. Donc ça, c'est pour le direct. Et puis, il y a la recherche par replay, où là, on va chercher par chaîne, par date, par personnalité ou par marque. Quand on trouve ce qu'on veut, on peut l'ajouter à notre liste de favoris. Et bien sûr, trouver l'endroit, le point de vente le plus proche pour aller choper ce vêtement. Oui.
Mais avec mes gros sabots habituels, donc j'ai mis le pied dans le plat.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques chaînes qui sont référencées pour l'heure.
En fait, il y a la plupart des chaînes... BFM Business n'en fait pas partie.
Et je vais vous expliquer pourquoi.
C'est parce qu'il faut
des habilleurs, il faut des génériques, etc. Il faut que tout ça soit référencé pour que ça marche.
Ah oui, alors que nous, on est naturel.
Et voilà.
On vient comme on est.
On vient comme on est. Exactement.
Parce qu'on le
voit. Donc, application gratuite disponible sur App Store. Il y a juste à créer un profil et c'est parti. Je voulais vite fait vous parler aussi d'une autre actualité. C'est la campagne publicitaire sur Instagram du nouveau rouge à lèvres de Dior. Ça a fait beaucoup d'émules, beaucoup de buzz. Ouais. C'est assez bien fait. C'est une jolie vidéo où le rouge à lèvres se fond dans une platine vinyle. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est hyper à la mode en ce moment, parce qu'il y a quelques jours, j'avais parlé de ça avec le sac 3 baguettes de Fendi, où ils avaient aussi mélangé l'objet en question dans une platine vinyle. Alors, il y a quelque chose là, peut-être.
Il y a un filon.
Ouais, il y a un filon là. Il faut travailler autour de la platine vinyle. Voilà, ça marche bien. Pratique Instagram. Puis, jolie vidéo pour découvrir ce produit qui est le rouge brillant Dior Peter Phillips, qui a repensé un petit peu ce produit phare de la maison.
Non, c'est vrai que c'est de plus en plus...
Merci.
J'ai l'impression un peu de se retrouver avec Culture Pub quand on les écoute, parce qu'il y a tellement d'efforts de la part des marques de tendance ou de luxe pour aujourd'hui, sur le web et le digital notamment, travailler à appeler les meilleurs réalisateurs, qu'au-delà du produit, il y a quand même des petits instants de spot et de réalisation assez magiques. Moi, je déteste pas. Enfin, là, je suis là.
Jardins du Pont-Neuf?
Un jardin du Pont-Neuf, c'est moins un restaurant qu'un spot. Alors, l'année dernière, vous savez, on parlait beaucoup des rooftops. Tout se passait en hauteur à Paris. Là, je pense que cette saison, ça va être plutôt à fleur de Seine. Ici, nous sommes les jardins du Pont-Neuf. C'est une énorme barge. Tout à la fois restaurant, spot à apéro, installé donc au pied du Pont-Neuf. Ça commence en fin d'après-midi, au début de l'apéro, jusque tard le soir. Donc, c'est aussi une manière de boîte. Plutôt connecté Marais, Ouest parisien. Et plutôt chic dans l'idée, avec un petit délice dénicé que j'adore, c'est qu'il y a à disposition un bateau Riva. Et ce bateau Riva, vous pouvez l'emprunter lorsque vous êtes client pour vous balader sur la Seine, ou bien même, éventuellement, un peu comme une manière de voiturier ou de conciergerie privée, dire vous allez me apporter plutôt du côté du pont du Garigliano ou du pont de Tolbiac, selon que vous habitiez à l'est ou l'ouest. Plutôt sympathique.
C'est so chic. Allez, puisque j'étais avec les nouvelles boutiques, je continue ma petite liste. Ça s'appelle Arsène et les pipelettes. Et ça s'adresse à qui? Eh bien, aux enfants, forcément, avec un nom pareil. 3 rues de Tournon dans le 6e arrondissement. Arsène et les pipelettes, c'est pas une nouvelle marque. Elle l'a créée en 2005, mais du côté de Saint-Jean-de-Luz. Elle s'appelle Chloé de Bailloncourt. Excusez du peu, elle a fait l'école supérieure des arts appliqués de Dupéré, Penningham, la St. Martin Schools of London. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait y faire. Elle a créé ses propres collections. Et donc là, on retrouve tout son univers dans cette petite rue de Tournon, Arsène et les Pipelettes. Et puisqu'on parle d'enfants, je termine avec mon petit objet de la semaine. Alors je vais prendre celui-ci, mais en fait, vous en trouvez bien l'autre. C'est Nougatine. C'est une nouvelle marque de cosmétiques pour les enfants. Spécifiquement, c'est français et c'est réalisé spécifiquement pour les enfants avec tout ce que ça implique en termes de neutralité, en termes de bio, etc. Là, c'est une crème visage hydratante, peau sensible, vanille et fraise, adoucissant et apaisant.
C'est les produits de soins
Ah, mais il y a tout. On trouve tout ça dans la boutique.
Ils vont quand même pas se maquiller, les petits filles.
Jolie Môme, 156 rue de Courcelles, dans le 17e arrondissement. Ils importent et ils prennent toutes les nouvelles marques françaises de cosmétiques de 0 à 12 ans à peu près. Vous avez par exemple. Mais non, mais le vernis à ongles, il part à l'eau.
Alors, c'est plus quand il y a des petites fêtes.
Mais c'est ça.
Là, pour aller à l'école. Hein.
Voilà. La marque Nougatine, je vous en viens d'en parler, c'est la grande nouveauté. Vous avez Mademoiselle Jacadi. Là, vous avez de l'eau pour démaquiller. Ça, c'est pour les jeunes filles, plutôt. Vous voyez ce que je veux dire.
Lady Green.
Il y a des très belles découvertes dans cette boutique Jolie Môme. Et surtout, il y a de plus en plus de marques françaises. Donc, dans ce marché-là, des choses à découvrir qui sont véritablement réalisées pour les enfants, donc qui sont adaptés à la peau des enfants quand elles veulent faire comme les plus grandes. Voilà, et ça s'appelle Jolie Môme. Merci beaucoup.
Merci à
vous. 156 rue de Courcelles, dans le 17e pour votre fille Emmanuel. Voilà. Merci beaucoup, Sandy. À la semaine prochaine. Allez, restez avec nous. On parle montre connectée dans un instant.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. De Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et quand Apple bouscule le monde horloger, bien nos goûts de luxe sont connectés. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Gouze. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'horloger Nixon. Vous nous présenterez tout à l'heure votre montre connectée, l'Ultra Ride, en bon accent français.
Parce Ultra que... Tide.
Ultra
Tide.
Tide.
Oui. Non,
Ultra Tide.
Monsieur Ride.
Ride. Mais pourquoi pas, ceci
la
dit.
Pour le ride.
Eh, c'est ça. Pascal Michel, bonjour.
Bonjour.
Représentant de la marque Mondaine en France, là aussi, vous nous présenterez ce nouveau modèle connecté. Grégory Pons, bien sûr, notre maître horloger qui bonjour. Est venu jusqu'à nous depuis Genève. Comment allez-vous?
Ben, très bien.
Depuis Bâle, vous nous racontez, ça a pas mal agité tout le monde, hein, cette histoire à Bâle. Pascal Samama, bonjour.
Bonjour Karine.
Journaliste à bfmbusiness.com, entre autres, notre geek maison aujourd'hui. Et vous aussi, ça vous anime depuis un moment, l'Apple Watch.
Ah, depuis quelques temps. Hein.
C'est ça. Alors justement, on va commencer par vous. On nous l'avait annoncé 24 avril. Alors ?
Deux temps. En fait, ils avaient annoncé des prises de commandes par Internet le 10 avril pour une livraison le 24 avril. Et on se rend compte aujourd'hui que seuls ceux qui ont commandé leur montre pendant quasi les quelques jours à partir du 10 avril seront livrés. Mais la montre ne sera que visible dans les magasins. On ne pourra pas aller acheter. Il y a différentes explications. On parle de rupture de stock, on parle de prévisions insuffisantes, on parle aussi de stratégie, de buzz, de communication. Et puis Apple se lance dans un nouveau marché. Ils n'ont pas envie, je crois, de voir des files de personnes qui vont faire la queue pour entrer en masse. Ils veulent pas d'une opération à l'iPhone. Ils veulent vraiment créer un nouveau concept de vente. Ils ont créé des espaces dédiés. Ils ont formé leur personnel.
Partenariat avec le magasin Colette.
Exactement.
Là, c'est un espace dédié dans Paris, quoi.
Espace dédié, mais
dans Paris, dans toute la France.
Dans toute la France. Et après, chaque Apple Store aura son propre espace dédié au fur et à mesure.
On sait à peu près dans quel.
On ne sait pas du tout, il n'y a aucune
mais
communication.
On ne sait rien.
On ne sait rien,
c'est qu'on
en fait
une émission sur une montre dont on ne sait rien. Parce que ce qui est curieux, c'est que finalement, les spécialistes ou les experts, que ce soit les experts horlogers ou les experts geeks, si on peut parler comme cela, vous ne l'avez jamais eu en main, donc vous ne pouvez pas en parler.
Alors nous, on a un journaliste qui l'a eu en main parce qu'il était. Du voyage pour l'avoir, donc il a touché quelques minutes, mais pas plus que ça. On n'a pas eu la montre, on l'a pas reçue, on l'a pas testée, on ne connaît rien sur son autonomie, sur toutes les fonctions qu'on connaît, c'est sur le papier.
Alors Pascal, le spécialiste de la technologie, c'est pas grand chose, à part sur le papier. Du côté du petit monde horloger, vous, tous les experts, pareil, vous avez été privés de
Grégory.
On a été privés, ils ne veulent pas la montrer aux journalistes horlogers, c'est très clair.
Alors pourquoi ?
Ah ben ça, il faut leur demander.
Alors les explications, il y en a une partie des explications, j'imagine que vous allez recouper ce que dit Pascal. À votre avis, vous expliquez comment c'est arrivé assez bizarre finalement?
Non, c'est pour créer le buzz, pour créer la rareté, pour maintenir l'attention, le suspense jusqu'au bout. Mais c'est un peu ridicule, parce qu'à partir du moment où quelques journalistes la voient, pourquoi les autres ne la verraient pas? Je crois surtout qu'ils ne savent pas, comme on vient de le dire, quoi faire sur ce marché qu'ils découvrent. Donc ils en font le moins possible pour ne pas prendre de risques.
Parce qu'ils n'estiment pas encore, effectivement, combien de personnes vont finalement se connecter à cette montre connectée. Ils ne sont pas sûrs de l'envie du public.
Pascal, rappelez-nous quand même, sur le papier quand même, on sait quoi de cette montre? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle offre?
Mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est une montre qui est connectée à un smartphone, à l'iPhone. Qu'est-ce qu'elle fait dans ses fonctions natives? Elle fait podomètre, elle calcule, elle a des fonctions santé, un tas de choses comme ça. Mais elle va surtout s'optimiser, ses fonctions vont être optimisées par toutes les applications qui commencent à sortir. Comme tous les objets à Apple, l'iPad, l'iPhone, etc. C'est les développeurs d'applications qui en font des choses qui vont permettre à des publics différents de se les approprier. Là, il y a des dizaines et des dizaines d'applications qui viennent de sortir.
Pour en citer quelques-unes, juste pour illustration.
Et si vous voulez, il va vous sortir sa liste.
Parce qu'elle a été développée véritablement pour l'Apple Watch.
Oui.
Donc, c'est intéressant de voir ce qu'ils ont pu développer, parce que finalement, d'avoir de la musique sur son cadran de monde, c'est pas forcément intéressant.
Il va y avoir, bien sûr, les réseaux sociaux. On va pouvoir connecter tous ces comptes Facebook, Instagram, Twitter, Instagram, etc. Il va y avoir du sport, évidemment. Il va y avoir ce qu'on appelle de la productivité, de l'organisation de son agenda, de ses réseaux, de son carnet d'adresses. Il va y avoir, bien sûr, les sites d'actualité. BFM TV a déjà préparé son application Apple Watch. Tout le monde s'y met. Alors, du loisir, du shopping, on va pouvoir acheter, recevoir des couponings, des coupons de réduction de différents commerçants. Écouter de la musique, évidemment, en acheter.
Et la loupe est fournie, sinon?
Alors ça, je vous le dirai quand je l'aurai testé. Voir comment on lit un article, comment on joue à un jeu vidéo sur sa montre.
Cadran, comment on écoute de la musique. On
va avoir je pense que c'est...
On va avoir le petit...
Ouais.
Bizarre. S'il n'est pas assez long. Franchement, avoir son poignet pendant 2 heures.
Non, ça va être en Bluetooth,
écouter
évidemment.
Écouter un concert, c'est bizarre.
Grégory,
il va y avoir quoi, surtout?
Une application très intéressante. Avec un détecteur de radar. Alors, ça ne s'appelle pas détecteur de radar, mais quand on conduit, c'est beaucoup plus intelligent de regarder les alertes là que sur un écran qui est à côté.
C'est
Coyote.
Ouais, exactement.
Des Français.
Eh oui, bien sûr.
Comme quoi, ça vous intéresse quand même, cette histoire de montre connectée.
Bien sûr.
Alors, justement, à Bâle, on va revenir dans un instant, le grand rendez-vous de l'horlogerie. Tous les grands horlogers, disaient oui, bon, la montre connectée, c'est pas encore tout de suite, mais n'empêche.
Qu'on a parlé que de ça.
Mais n'empêche que dès avant Bâle, ça bruissait dans tous les sens.
Ça y est, mais il y avait 30 montres connectées à Bâle, dont celle de nos amis ici présents, et plus une bonne trentaine d'autres projets. Mais ce qu'on ne savait pas à Bâle, et ce que j'ai trouvé depuis, c'est que l'Apple Watch est interdite sur le marché suisse.
Alors racontez-nous cette histoire.
C'est une histoire de fou. Il y a 30 ans, il y a un type de Singapour qui a déposé le mot Apple, pomme, avec un logo avec une pomme dans la catégorie montre. Et quand Apple a voulu aller en Suisse, rien du tout, pas possible. Apple n'a pas pu enregistrer ni la pomme, ni Watch, ni Apple Watch en Suisse.
Voilà. Alors du coup, nos amis suisses vont pouvoir avoir et toucher chez eux des Apple...
Pas du tout.
Non.
La montre ne peut même pas entrer sur le marché suisse. Elle ne peut pas être livrée à un journaliste, par exemple, quand j'en ai fait la demande. Et dans les boutiques Apple, quand vous y allez, on vous dit elle sera peut-être livrée en 2015, mais peut-être en 2016. C'est-à-dire ils ne peuvent pas la commercialiser en Suisse. Et c'est pour ça qu'Apple n'était pas à Baselworld. Et c'est pour ça qu'Apple n'a rien fait comme buzz à Baselworld, à part le buzz...
Interdit de territoire.
Voilà, interdit de territoire, de marché.
Alors, c'est pas mal, c'est le pied de nez, ça.
Le reste des montres connectées, on reviendra aussi sur ce que vous avez vu, entendu, ou ce qui n'existe pas vraiment encore, Grégory. Mais du côté de chez Nixon. Nixon, c'est une jeune marque créée en 1998.
Exactement.
C'est ça. Du côté, alors vous êtes un pied au Pays Basque, un pied en Californie.
Tout à fait.
Voilà,
au nord de San Diego.
Des montres designées en Californie, fabriquées en Chine avec des mouvements japonais ou suisses.
Exactement. Voilà. Très bon résumé.
Et vous sortez votre première montre connectée.
Exactement. Donc Nixon a toujours été présent sur les montres, de prévision de marée, parce que c'était les seules choses qu'on avait disponibles pour aller surfer. Donc hauteur de la marée pour pouvoir se positionner, aller à tel ou tel endroit surfer. Par contre, avec l'évolution de tout ce qui est prévision météorologique et surtout atmosphérique pour le surf, il y a tout un ensemble de paramètres qui sont indispensables pour pouvoir bien choisir ces endroits où aller surfer. Dès que les conditions de vent, d'houle changent, la session de surf qu'on va avoir va être ou bonne ou mauvaise. Donc comment être toujours au point et avec les dernières informations.
Optimal.
Donc on est connecté maintenant sur un éventail d'environ 2700 endroits, alors qu'avant on n'avait que 270 endroits qui étaient en fait répertoriés. Donc un panel énorme au niveau monde.
Combien ?
2700. On a travaillé avec
spots de surf.
Des spots de surf qui sont identifiés comme des spots de surf. Et on a travaillé avec Surfline qui est un des leaders de la prévision surf dans le monde. Donc après on rentre sur sa montre, sur son application, les spots où l'on va habituellement, on peut aller de 5 à 10 à 15, et qui sont constamment updatés avec les dernières conditions, avec 10 fois plus d'informations. Donc hauteur de vague, au moment, hauteur de houle, direction de la houle, la fréquence aussi qui donne en fait la puissance de la houle, température de l'eau, température de l'air, vitesse du vent. On a aussi un qualificatif où on peut marquer sa session, si elle était bonne, si elle était mauvaise. Et à la suite de ça, le partager avec les amis et leur entrer en surf alerte. Ça veut dire que quand les conditions reviennent dans le même spectre, vous avez une alerte, il est temps d'aller surfer.
Donc c'est quasiment, ça devient presque un petit réseau social dédié à l'univers des surfeurs, via et grâce à ces principes de la connexion, de la montre connectée.
Je me connecte avec des amis en Californie qui ont surfé sur des spots.
C'était déjà une tribu, les surfeurs, mais alors là, ça va devenir un gang. Parce qu'ils étaient déjà très entre eux, mais alors là, ils vont plus se quitter, grâce à vos montres.
Encore moins qu'avant.
Juste une réflexion, parce que vous n'avez pas entendu notre guide Pascal, mais qui a dit génial, génial. C'est vrai que c'est dans les montres connectées, c'est peut-être ça aussi l'idée, c'est qu'il faut répondre à un besoin, les usages.
Oui, bien sûr. Et puis, alors il y a beaucoup de montres connectées qui ne sont pas totalement étanches, qui supportent bien sûr d'être mouillées, on peut prendre sa douche avec. Et c'est là que ça va jouer, une montre connectée. Qu'à des applications sportives, on veut ne jamais la quitter. Si on monte sur sa planche, on veut la garder. On va pas laisser sur sa serviette sur le bord de la plage, évidemment.
Mm-hmm. Grégory, est-ce que vous pensez que justement l'univers et l'avenir de ces, ça rejoint un peu ce que vous dites, Pascal, l'univers de ces montres connectées, ça sera aussi des montres dans l'hyper spécialisation, parce qu'on voit finalement que l'Ultra Tide de chez Nixon, c'est une montre qui donne l'heure bien évidemment, connectée, mais d'abord et surtout connectée sur l'univers, sur la niche du surf. Est-ce qu'à terme, ce sera pas ça la force de ces montres-là? Chaque tribu aura sa montre.
Ce sera la force des horlogers.
Des horlogers.
Un horloger qui doit affronter la concurrence d'Apple directement, il a pas les moyens en ingénieur, enfin, etc. En revanche, sur des niches, ce sera très difficile d'aller chercher Nixon, qui est particulièrement légitime sur cette niche. Et après, on peut imaginer une montre pour les chasseurs ou pour les mangeurs de spaghettis. Mais on sera par niche.
Pour la connexion, je doute, mais
Pascal,
je sais pas ce qu'on va raconter.
Juste, c'est que, évidemment, Apple ne pourra pas aller dans tous ces domaines, mais va compter justement sur les développeurs. J'imagine qu'il va y avoir des applications de surf, des applications de chasse et même des applications pour les mangeurs de spaghettis, parce qu'Apple va vouloir toucher, comme elle le fait avec l'iPhone, avec l'iPad et tout le reste, toutes les communautés qui sont avec des objets qui s'interconnectent en plus.
C'est ce que vous avez fait quand on parlait d'objets qui s'interconnectent et de tribus qui s'interconnectent. Juste, Philippe, pour l'Ultra Tide chez Nixon, combien de temps pour développer entre le moment où vous avez décidé d'aller vous engouffrer à votre tour sur la montre connectée? Ça a mis combien de temps?
Ça a été une genèse d'environ deux ans et demi, quand même, histoire de voir. Et puis tout de suite, on a réduit un peu le spectre de développement pour ne pas transformer une montre de surf en usine à gaz.
Oui, c'est
un outil vraiment pour, avant d'aller surfer, pour après avoir surfé. Et quand on surfe, on se concentre sur le surf et non pas sur un tracker de performance. C'est plus le côté hédoniste. Donc voilà, deux ans et demi,
c'est là-dessus. Pour ça qu'ils ont réussi leur coup, parce qu'à Bâle, il n'y avait que des projets.
Oui, c'est
eux,
ça.
Eux, ils y ont cru il y a deux ans.
C'est du vrai.
À l'époque, les Suisses faisaient de la
broadcastination. On peut avoir la démonstration, effectivement. Ça coûte combien?
280 euros.
On la trouve évidemment dans la boutique parisienne qui a ouvert en septembre, que l'on retrouve donc dans le... Redonnez-nous l'adresse.
Rue Froissart,
voilà.
Dans le 11e arrondissement, près de la Bastille.
Voilà, on fait une petite pause sur BFM Business.
Ah, le temps passe vite.
Mais c'est ça, mondaine.
Même connecté.
On va y venir. C'est promis.
On arrive à la mondaine, promis.
Pascal, Michel. Allez, on fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Deluxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Alors que l'Apple Watch débarque, Goodlux se met à l'heure connectée. Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Gousse, directeur général de l'horloger Nixon, de Pascal Michel, représentant de la marque Mondaine en France, de notre maître horloger Grégory Ponce et de notre geek maison Pascal Samama, journaliste à BFMBusiness.com. Pascal Michel, on a eu la version Nixon de la montre connectée qui est d'ores et déjà opérationnelle pour les surfeurs. Donc, Mondaine, elle s'adresse à qui, votre montre connectée Mondaine Helvetica Horlogical Smartwatch?
Elle s'adresse à tous les clients qui aiment la marque Mondaine et tous les clients qui ont aimé une montre connectée, mais avec un look de montre très classique, puisque rien ne laisse paraître, lorsqu'on voit la montre, que c'est une montre connectée. C'est la montre que je porte au poignet, donc c'est une montre d'aspect très classique, avec que des aiguilles sur le cadran, et une application qui permet de suivre différentes fonctions, comme le suivi d'activité, le sommeil, et puis des activités de coaching. Donc si vous voulez par exemple programmer votre réveil et avoir un réveil optimal et une journée sous le soleil de la bonne humeur et de la forme, vous vous dites voilà, je vais me réveiller à 7h avec une demi-heure d'avance ou de retard, et la montre va vous réveiller au meilleur moment pour que vous soyez en forme toute la journée.
Voilà. Le meilleur moment de votre cycle de sommeil.
Mais oui.
Voilà, ça s'adapte à votre sommeil, ça vous réveille en sommeil léger au lieu de vous réveiller en sommeil profond qui, en général, est synonyme de mauvaise humeur ou de mauvaise forme.
Moi, il ne faut pas m'ennuyer à ce moment-là.
Donc là, c'est une Swiss Made intelligente, en fait. C'est ce qui ressort d'abord. Vous disiez, elle ressemble à une montre classique. L'idée, c'est on est d'abord sur de l'horlogerie classique, on a ce petit truc en plus.
Exactement. Bon, pour nous, c'est tout simplement une complication supplémentaire, une complication moderne. Donc, et c'est un traitement aussi un très design, puisque la marque est vraiment très ciblée par rapport au design. On a deux cadrans, dont le nouveau cadran qui est lancé avec cette montre connectée, à savoir le cadran Helvetica. Helvetica, c'est l'écriture, la police d'écriture qui a été créée en 1957 en Suisse.
Musique.
Mythique. Et donc ça c'est le nouveau cadran, et le cadran historique qui a été créé il y a 71 ans, c'est le cadran des horloges des guerres suisses, un cadran très design, très épuré. Et donc c'est aussi, je pense, ceci que nos clients vont chercher dans la montre connectée Helvetica numéro 1 Smart.
Oui, ça reste les grands codes de la marque Mondaine.
Ouais.
Justement, c'est intéressant parce que marque suisse, qui avait déjà ses codes, qui est une facture classique, j'allais dire, horlogère mécanique. Vous, quand vous avez appris, vous avez entendu, vous êtes arrivé, votre marque, au connecté, à la montre connectée? C'est parce que vous avez entendu parler de l'arrivée de l'Apple Watch et vous êtes dit, là, faut y aller parce que ça va être la déferlante. Quelle était la réflexion? Parce qu'on en reparlera avec Grégory, mais beaucoup d'horlogers suisses ont été très, très frileux, voire assez dubitatif sur l'avenir de ces montres connectées, n'y sont pas allés, ou alors y arrivent en accélération directe, on ne sait pas ce que ça va donner. Vous, ça s'est passé comment chez vous?
Je pense que la démarche de la société, c'est de considérer des nouvelles tendances comme des opportunités, pas des menaces. Donc on peut très bien accompagner le mouvement, c'est ce qu'on a fait. On a fait d'ailleurs le lancement pour la presse juste avant le lancement de la montre Apple, et on a eu énormément de retombées. Effectivement, je pense que toute l'année, les médias vont parler de cette montre, de ces montres connectées, et donc c'est pour nous aussi une opportunité de communication, mais c'est aussi une opportunité commerciale, parce qu'on a déjà des réservations, des commandes fermes sur cette montre-là, et de clients actuels Mondaine qui veulent l'acheter, ou de nouveaux clients qui viennent.
Elle est à quel tarif?
Elle est à 600€.
600€. Grégory Ponce, là on a du concret. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'ultra taille de Nixon et Mondaine, effectivement du concret de montres connectées. À Bâle, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on vous a proposé d'autre à Baselworld?
Je vous l'ai dit, 30 projets présentés, 8, 9, peut-être 10 réels. Voilà. Mm-hmm. Et le reste, c'est de l'annonce d'annonce.
Mais racontez-nous, rappelez-nous un petit peu quels sont ceux qui sont dans la course.
Vous avez Jean-Claude Biver, par exemple, le fameux Jean-Claude Biver, qui nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir, Intel, Google, la montre connectée, fantastique.
C'est Hublot?
Hublot? Non, Daguerre.
Daguerre.
On a vu une très belle annonce. Alors, il y a les gens de Google et d'Intel qui sont venus couper le fromage pour le manger avec Monsieur Biver. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est les deux Californiens, ils n'avaient pas de montre. Donc, je veux bien qu'on me dise qu'ils sont très intéressés par les montres, mais ce n'était pas le cas. Et puis, c'est de l'annonce d'annonce. Ça va.
Donc,
ça
clair, la montre Daguerre est connectée. On peut attendre encore 18 mois.
Rien avant octobre, novembre. Voilà.
Swatch.
Swatch est une montre connectée pour le beach volley. Je veux bien que le beach volley soit un sport
de
masse.
Ah, quand il y a bien des surfeurs.
Ah, ouais, ils font bien le spot. C'est un vrai tribut.
Non, mais c'est
ça implique beaucoup de choses, le surf. C'est vrai que tu as besoin de la houle, on parlait. C'est vrai qu'il y a besoin de données techniques. Le beach volley, à un moment donné, le sens du vent, je veux bien.
On a besoin d'un bikini, c'est tout.
Et les grands du luxe, comme Bulgari, par exemple.
Bulgari, c'est un peu plus intéressant parce qu'ils ont choisi une voie complètement différente. D'abord, pas une montre connectée forcément avec un téléphone, mais une montre connectée avec ce qu'on appelle les puces NFC, c'est-à-dire les puces sans contact. Et là, c'est très bien parce que cette montre, qui est en plus dans des matériaux révolutionnaires avec du magnésium, des choses comme ça, je ne vous ai pas mis les détails, elle permet par exemple de déverrouiller un téléphone. Vous voyez, vous l'approchez, hop, la puce communique, c'est des puces sans pile, hein, ça communique avec le téléphone, toc, ça vous déverrouille. Votre ordinateur, toc, ça vous déverrouille aussi les mots de passe. Donc vous stockez vos données personnelles, y compris des données bancaires, et ça vous sert un peu, on peut dire, de coffre-fort de poignet. Donc c'est une idée très suisse. Les données qui sont là-dedans sont sécurisées au fond d'un bunker, au fond d'une caverne, gardées par l'armée suisse. Enfin, en gros, c'est ça. Et donc c'est l'idée de coffre-fort de poignet est bonne. Et là, c'est pour une fois, c'est pas un projet bidon. C'est un projet qui existe et c'est assez malin. Et ça colle bien à l'image de luxe de Bulgarie.
Mm-hmm. Frédéric Constant ?
Alors, Frédéric Constant, c'est un peu la grande sœur de Mondaine. C'est à peu près la même chose, c'est le même mouvement. Ils ont développé ça ensemble. C'est bien, ça existe. C'est une montre à traceur d'activité. Voilà, comme les bracelets Jawbone ou Fitbit, c'est à peu près pareil.
Mais le problème, finalement, c'est presque que vous ne parlez pas la même langue, Pascal Savama et Grégory Poncet. Quand on fait de l'Apple Watch, quand on fait des montres connectées, ce sont des développeurs. Là, on parle d'horlogerie.
Est-ce que
les deux mondes vont pouvoir se rencontrer? Je vous pose la question à vous, puis je vous poserai la question à vous, Grégory.
On n'a tous que deux poignets au maximum, mais on peut avoir plusieurs mondes pour plusieurs choses. Il faut juste qu'elles soient compatibles avec les mêmes appareils. On ne va pas s'acheter un appareil Android et avoir un iPhone, etc. Mais à partir de là, on peut avoir une montre élégante, une montre un peu plus sportive. Ça, je ne pense pas. Le problème, c'est ce que vous disiez, c'est avec les données. C'est est-ce qu'on va répartir toutes ces données sur plusieurs montres différentes? Et là, ça va être les usages qu'on va découvrir. Et je crois que personne n'a encore la réponse. Comment est-ce que la montre connectée va s'intégrer dans notre vie de tous les jours? On ne sait pas encore.
Mm-hmm. Grégory, comment vous expliquez, au-delà de ça, quand même que ce monde suisse de l'horlogerie traditionnelle mécanique ait mis tant de temps à appréhender l'arrivée de ces montres connectées? Quoi, c'est de la fierté, c'est le côté hautain, et aujourd'hui ils sont un peu paniqués, donc ils font un peu tout et n'importe quoi, des effets d'annonce plus que des réalités.
Mais quand on dit pendant des années on est les plus beaux, on est les plus forts, on fait les plus belles montres du monde, on a du mal à admettre qu'une minable équipe de geeks californiens arrive à faire des montres et en vendent, je crois, 3 millions en 10 jours. C'est incompréhensible d'un point de vue suisse.
Révolution culturelle, là.
C'est pour ça qu'il faut complètement reformater le logiciel horloger. Et c'est pour ça que l'Apple Watch crée un nouveau marché. C'est pas le marché des montres, c'est pas de l'horlogerie, c'est autre chose. Et alors, soit les horlogers suisses comprennent, suivent, combattent, concurrencent, font quelque chose, soit ils font rien, ils vont mourir.
Philippe Gouze, comment vous avez géré, vous, c'est toute votre histoire, développeur d'un côté et horloger de l'autre?
Dès le départ, on est parti avec Surfline, on a essayé d'adapter, en fait, toutes ces données. Ça s'est fait de manière assez naturelle, on n'a pas regardé ce que faisaient les autres, mais en fait, ce dont on avait besoin. Mmh. Au lieu de regarder à droite, à gauche, pendant qu'on fait ça, on ne s'occupe pas de...
C'est peut-être là la solution.
Voilà. Quel était notre champ d'activité et ce qu'on cherchait à avoir. Il faut dire qu'on a des athlètes et des ambassadeurs qui pratiquent et qui sont extrêmement exigeants. Donc tout ça a été validé au travers d'un panel de gens très spécialisés là-dedans. Donc tout de suite, le process et la genèse s'est mise en route toute seule et venu assez naturellement.
C'est pour ça qu'ils sont prêts.
Ce qui s'est passé, Pascal ?
Moi, je crois que dans le cas de l'horlogerie, les horlogers ont parfaitement raison de faire ce qu'ils font, de communiquer, de dire, même s'ils n'ont pas abouti à un projet, de dire qu'ils vont le faire. Il faut quand même se rappeler quand Apple est arrivé avec l'iPhone 2007. Tout le monde s'est moqué d'eux. Nokia, numéro un mondial, a dit, mais on va rigoler, on va les voir s'effondrer.
Avec leur gadget.
Voilà, maintenant on voit le résultat. iPhone numéro un mondial dans toutes les bouches. Et Nokia qui a été obligé de céder son département téléphone mobile à Microsoft.
Ah, qui crie maman, qui pleure beaucoup. Hein.
Ben oui, ils ont sauvé ce qu'ils pouvaient. Quand Apple arrive sur un marché avec la puissance de feu qu'ils ont technologique et financière, ils ne viennent pas pour beurrer les tartines. Ils veulent vraiment pour faire quelque chose. Je crois qu'en annonçant très tôt la montre, sa montre connectée, ça a permis à l'horlogerie de réagir. agir. On n'aurait jamais entendu parler de Mondaine dans le grand public. On n'aurait jamais entendu parler de Frédéric Constant. On ne saurait pas que Tiger aurait eu un projet de monde connecté. Si, je crois absolument pas. Je crois que ce qui se passe, c'est très bien. Là, il va y avoir vraiment un affrontement, une concurrence saine qui va permettre à chacun de faire ce qu'il va devoir faire.
Alors Pascal Michel, d'ailleurs vous représentez plusieurs marques en France, donc on parlait de Mondaine, Victorinox, Swiss Army aussi.
Victorinox Swiss Army a un projet de monde connecté différente qui arrivera vraisemblablement début 2016 dans la logique de l'ADN de la marque et la logique multifonction du fameux couteau suisse et de cette approche-là, donc une approche encore différente. Effectivement, ce sera un nouveau produit sur le segment des montres connectées.
Et Pascal Michel, vous avez dit là rapidement tout à l'heure que lorsque vous avez mis la Mondaine connectée sur le marché, enfin en annonce, vous avez à la fois eu des clients potentiels qui sont des fidèles de la marque, mais aussi tout un tas de nouveaux clients. Alors est-ce qu'on arrive déjà à les appréhender? Ça rejoint ce que disait Grégory. Aujourd'hui, il va y avoir certainement surtout un nouvel usage et un nouveau public autour de ces mondes connectés. Ça, vous le sentez d'ores et déjà? Vous avez capté des gens que vous ne connaissiez pas, que vous n'imaginiez même pas connectés?
On a touché effectivement beaucoup de nouveaux clients. On avait d'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui s'est passée en 2012 de la marque, comment s'appelle-t-elle? Apple, qui avait repris le cadran de Mondaine et qui l'avait mis sur son iPhone et sur ses iPads avec un petit détail, c'est qu'ils n'avaient pas vérifié au préalable que ce design était protégé et déposé.
Ils ne vérifient pas grand-chose, vous avez vu, en Suisse, donc, ils ont juste oublié de vérifier s'ils avaient déposé leur nom.
Donc on a eu effectivement, déjà il y a 2 ans, maintenant 3 ans, un afflux important de nouveaux clients qui étaient des clients Apple et qui ont découvert la marque Mondaine au travers de ce cadran.
Merci.
Et aussi des 20 millions de dollars qu'ils ont payé à posteriori pour l'achat du cadran.
Par rapport à ces nouveaux de clientèle, vous parlez d'une nouvelle sociologie d'un nouveau public.
On parlait de l'horloge qui avait été volée par Apple ou de la marque qui n'est pas déposée, mais à l'origine, et Pascal peut nous le confirmer, on parlait de iWatch.
Oui,
et puis ça s'appelle plus iWatch, ça s'appelle Apple Watch. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas vérifié que iWatch s'était déposé aussi.
C'est ça leur génie peut-être, c'est qu'ils ne vérifient pas tout, mais ils ont un côté libertaire encore un peu bohème qui leur permet de foncer vers des champs du possible que personne n'imagine. Mais dans le côté bohème, on en oublie aussi d'être ils sont un peu hautains, les mecs ils vérifient rien. Quoi.
Mais en revanche,
en Suisse, ils oublient de déposer leur.
En revanche, il y en a un qui vérifie, si vous voulez suivre toutes ces histoires, c'est sur Business Montre, votre lettre, bien sûr, Grégory Ponce, où on suit tout ça et toutes les nouveautés dont on a pas encore eu le temps de parler aujourd'hui, parce qu'on pourrait encore en parler 2 heures de ces montres connectées. Merci beaucoup à vous, Grégory Ponce. Merci infiniment, Pascal, à sa mama. On retrouve, bien sûr, vous aussi. Vous suivez tout ça très près. On trouve tout ça sur bfmbusiness.com. Merci beaucoup à tous les deux et bonne chance à vos montres connectées. Ultra Tight de Nixon, Philippe Gouze, merci beaucoup à vous. Et Mondaine, bien sûr, Pascal Michel, la Helvetica Horlogical Smartwatch.
Ça va plaire aux graphistes.
Yes. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci en tout cas, restez avec nous. Goodux Paris continue dans un instant, c'est l'agenda.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et à cette heure-là, ça commence à sentir l'évasion. Dans un instant, Goodux vous emmène à Las Vegas. Mais tout de suite, c'est le livre de la semaine. Et Emmanuel, on va ruer dans les brancards. Ça s'appelle...
Ah, pas nous, lui.
Bordeaux Connexion. Ah oui, à partir du moment où on se fait le relais d'un tel ouvrage, d'un tel brûlot presque, Benoît Sima, c'est chez First Document, une enquête haletante au cœur de la mafia des grands crus, comme son nom l'indique. Alors, il le vend comme l'enquête, la première enquête jamais réalisée sur ce milieu-là.
C'est un peu survendu. D'ailleurs, on avait reçu il y a une année à peu près Isabelle Saporta qui avait écrit, je crois, chez Albin Michel, une manière de livre noir du vin et du vignoble français qui s'adressait et qui se concentrait d'abord et surtout sur le bordelais. L'enquête est bien menée. Benoît Simat, c'est un bon connaisseur, ancien de la Revue du Vin de France. Effectivement, il y a beaucoup à dire sur le bordelais. Il le construit en manière de polar, beaucoup d'éléments avérés. C'est vrai qu'on a un petit peu fatigué d'enfoncer toujours le clou sur les... j'allais dire les mêmes crues. Il y a aussi beaucoup d'opportunistes parce que vous savez que nous sommes en 2015, 1855, c'est le fameux classement du Bordelais. Il y a beaucoup à redire, il n'a jamais été revu véritablement ce classement-là. Il en parle d'ailleurs, il parle aussi des OPA. Aujourd'hui, c'est l'or rouge, hein, le vin. Donc il décrypte tout ça très bien. Mais on se dit qu'au moment où beaucoup vont fêter les 160 ans de ce fameux classement des grands crus bordelais, eh bien, il y a les gentils ou les vilains petits canards qui viennent rouer dans
alors,
les brancards.
Après, pourquoi pas. On rentre vraiment dans les coulisses de ce milieu-là, dans ce milieu qui se joue beaucoup en Asie aussi. Il y a les nombreuses fois en Asie. On a des moments assez savoureux et fabuleux où vraiment vous rentrez dans un monde qui, si vous ne le connaissez pas, vous est quand même totalement étranger. Et là, vous apprenez des choses sur les rapports entre ces propriétaires bordelais et les Asiatiques, par exemple. Et au final, on se dit, même si on n'est plus sur ce qui s'est passé il y a 2-3 ans où il y avait véritablement une effervescence sur le marché, il y a quand même des choses assez croustillantes.
Alors, il y a beaucoup de choses croustillantes. C'est vrai que c'est aussi une bulle hein, financière. Ah, on en revient aujourd'hui à cette fameuse bulle financière du vin et notamment du vignoble bordelais. D'ailleurs, les Asiatiques vont de plus en plus du côté de la Bourgogne pour voir s'il n'y a pas à faire. Je trouve que le bouquin est pas mal du tout, si ce n'est que finalement, il s'intéresse beaucoup justement à ces relations plus ou moins délicates entre le monde du Bordelais et le monde de l'Asie, notamment de la Chine. Et je trouve que Benoît Simat, en association avec quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Aymeric Mantoux, ont sorti il y a 2 ans un bouquin qui s'appelait, chez Flammarion je crois, La guerre des vins, et qui était beaucoup plus passionnant parce que là, il mettait en perspective véritablement une géostratégie géopolitique du vin, et aujourd'hui une financiarisation du vin qui était beaucoup plus parlante. Là, c'est bien, mais allez à la guerre du vin, finalement, je vais vendre le livre précédent et pas celui-ci.
Allez, quand même.
Quand même.
On peut le citer parce que Benoît Simat est quand même quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Ça s'appelle Bordeaux Connexion et c'est chez First Document. Allez, Good Luxe d'ici et d'ailleurs.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Alors, Capucine Grabi est actuellement en voyage. Bah oui, de temps en temps, il faut bien qu'elle aille voyager pour nous ramener des adresses d'hôtels. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Braillet. Comment
Bonjour,
ça va?
Très bien.
Bonjour. Rédacteur en chef adjoint de The Good Life. Et pour The Good Life aussi, vous vous baladez pas mal. En général, dans cette belle revue, le nouveau numéro vient de sortir.
Oui.
Vous avez toujours des destinations assez fabuleuses au milieu de tout le reste, hein, parce que The Good Life, c'est...
Bah, c'est 350 pages.
Bah, c'est ça. 350
assez global.
Pages. Donc voilà, il y a pas mal de choses.
Beaucoup d'économies, mais un peu de voyage aussi, oui.
Alors, on commence par Aroa, c'est comme ça qu'on dit tout simplement?
Oui, je pense, Aroa.
C'est où Aroa?
Alors Aroa, c'est au bout du monde, enfin au bout de notre monde, parce que c'est au fin fond de la Nouvelle-Zélande, dans les Alpes du Sud néo-zélandaises. Très bel endroit, un truc très archi, très épuré, en pierre, en bois, on est dans le Rhône de l'Épure. Ce qui est surtout très drôle, c'est que c'est un endroit pour faire une retraite. C'est-à-dire vous oubliez tout, vous posez tout, vous nettoyez. Alors c'est un peu militaire, parce que c'est un peu quand même un peu anglo-saxon. Ça a été créé par deux types. Un ancien financier qui a gagné beaucoup d'argent et qui a fait un burn-out, visiblement, qui a rencontré un prof de yoga... un peu gourou, on va
c'est
dire.
C'est un classique, déjà.
Ouais, c'est ça, voilà.
Ils ont investi,
il y en a un qui avait l'idée, l'autre qui avait l'argent. Ils ont investi, enfin, celui qui avait l'argent a investi 30 millions de dollars. Et c'est un endroit où vous mangez raw food, vous faites du yoga, évidemment, vous faites des randonnées, mais pas de la petite randonnée, hein, des randonnées de 20 km par jour. Ou quand on fait un massage sportif.
C'est presque une clinique.
C'est presque une
réhab.
Clinique, oui, c'est presque un truc de réhab et on reste minimum 5 jours. Ça veut dire que vous pouvez pas. Nous, il a fallu négocier pour que la journaliste, parce que du coup, elle a dû faire une réhab, elle aussi.
Mais
il a fallu négocier, mais vraiment d'arrache-pied pour qu'elle ne reste que 3 jours. Parce que, évidemment, 5 jours, c'était un peu.
Non, puis elle est revenue en pleine forme.
Elle est revenue en pleine forme, elle s'est demandé pourquoi tant d'efforts pour ça.
Mais parce que, et surtout, ils ont environ au bout de 3 jours. Elle est contaminée à tout le monde, elle était en pleine forme, elle était bosseuse, active. Les gars, ils disent non, là, c'est que des burn-out.
Ah non, parce que je veux dire, ils se lèvent à 6 heures du matin.
Ah, c'est martial.
Ils font une randonnée, vous arrivez, vous êtes d'abord pesé, enfin bon, et puis vous commencez par marcher le matin, et après il y a du yoga, et après il y a
Aroa. Ça s'appelle comment alors c'est...
Ça s'appelle Aroa.
Aroa. Comment il s'appelle votre magazine?
The Good Life.
Good Life, 6 heures du matin, bon. Des pompes.
Emmanuel, laissez parler Stéphane, ça va vous plaire. Las Vegas, qu'est-ce qui se passe à Las Vegas?
Alors Las Vegas, on pense tous casino, quoi, grosso modo. Bah oui, mais il y a autre chose.
Céline Dion.
Non,
comme elle y va,
c'est les casinos. Non. Il y a encore un milliardaire, évidemment, un type qui a gagné beaucoup d'argent dans la nouvelle économie et qui, pour des raisons fiscales, parce que le libéralisme à l'américaine, c'est quand même beaucoup basé sur les exonérations d'impôts, les subventions, a installé sa société de vente de chaussures en ligne à Las Vegas pour payer, éviter l'impôt. Et en fait, il a... finalement investi en tout 350 millions de dollars, ce qui est quand même pas rien, dans Downtown. Parce que Downtown, il y avait que des indigents, en fait. Plus personne n'allait dans Downtown. Et il a racheté la mairie, c'était assez simple. Il a investi 200 millions de dollars dans l'immobilier, on va dire, pour terrain et bâti. Et il a investi 150 millions de dollars en trois zones différentes pour aider à la fois des entreprises qui veulent s'installer, de la tech et l'éducation et la culture. Alors là où c'est plutôt malin, c'est que alors, du coup, évidemment, Downtown devient un quartier un peu bobo. Alors, il y en a pour 10 ans.
Bobo, hein. De Las Vegas.
Ouais, il y en a pour 10 ans. Mais il y a plein de boîtes qui s'installent parce qu'il y a par exemple une des libraires qui ont quitté New York et qui se sont installées à Las Vegas. Donc il y a une librairie à Las Vegas. Puis une librairie, une bonne librairie.
Non, mais l'article est d'autant plus intéressant que, un, Las Vegas est toujours l'image portée du strip, c'est-à-dire ce boulevard des casinos. Et donc, en fait, il y a toujours une vie à Las Vegas.
Toujours.
Et deuxièmement, c'est intéressant parce que le Downtown, comme vous dites, c'était le cœur historique de Vegas. Mmh. C'est là que tout a commencé, bien avant le strip. Ouais. Et c'est vrai que depuis, c'était en déshérence totale. Quand on allait à Vegas, c'était limite un coupe-gorge. Moi, j'aimais beaucoup Downtown, mais bon, fallait y aller. Et c'est vrai qu'effectivement, ils sont en train effectivement d'en faire une manière d'incubateur.
Alors, ça va prendre du temps.
Mais enfin, disons, avec les Américains et les gens de Vegas, ça va prendre un peu moins, je pense.
En attendant, vous allez lire dans The Good Life. Vachement allez, il faut qu'on avance. Le Parker Palm Springs.
Eh oui, Palm Springs, ça fait rêver, mais alors Palm Springs, ça fait rêver maintenant, mais c'est pareil, ça a fait rêver dans les années 40, 50, avec toutes les vedettes hollywoodiennes qui y allaient, puis après, ben, les années 50, c'était devenu démodé, plus personne n'y mettait les pieds. Et puis, il y avait des hôtels qui tombaient un peu en ruine. Bref, il y a le Parker qui avait été racheté, revendu, etc., qui après est parti dans le groupe Starwood et qui a été refait dans 2003 et qui est le premier, en fait, à avoir relancé le goût pour le modernisme à Palm Springs. Donc, alors, depuis, il y a plein d'autres hôtels qui se sont installés, mais c'est vraiment le premier et c'est un peu l'escale préférée des stars d'Hollywood, hein, parce que de toute façon, on n'est quand même pas loin, donc forcément, avec tout un tas de codes. Alors, c'est un très très bel endroit, mais les gens sont un peu cachés, sortent pas de l'hôtel, il y a une espèce de labyrinthe de végétal. Très 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 bel endroit, et c'est vraiment tout l'esprit de Palm Spring à la fois 50, et à la fois 50 revu par les années 2015.
Voilà.
Pour faire court.
The Good Trips, The Good Palace et dans The Good Life. Stéphane Brier.
Absolument.
C'est sympa, hein, lui.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Allez, très rapidement, Emmanuel, une vente.
Alors, une vente très rapide, ça fait 4 ans qu'on ne l'avait pas vue, du côté de Charcurial, rond-point des Champs-Élysées, la fameuse vente Voiles-et-Marines. Depuis 4 ans, on n'avait pas le droit à cette fameuse vente dédiée à tout le monde du nautisme, que ce soit bateau à moteur ou bateau à voile. Alors, ça aura lieu donc le 29 avril à 14h, je vous rappelle, 2-3 jours avant, il y a toutes les expositions, avec quelques temps forts, un Riva Ariston, un Dragon, ça c'est un canot un peu particulier, et puis alors un pédalo électrique, ça faut le voir, c'est le coup du spectacle, le pédalo électrique.
Super, c'est cher.
Mais non, mais faut donner cette vente Voiles-et-Marines.
Bien sûr, le 29
on peut pas
avril.
Tous partir à Palm Springs, hein, donc on rêve du côté d'Arcurial.
14h. Alors vous avez commencé l'émission avec un Riva, vous finissez avec un Riva. Moi j'ai commencé en parlant des enfants et je n'en démords pas. Vous savez, c'est les vacances, c'est un petit peu cette idée-là. L'expo à voir, le coffre à jouets du musée des arts décoratifs, les jouets du musée des arts déco, comme vous ne les avez jamais vus, c'est jusqu'au 30 août dans la galerie des jouets. En fait, ils ont une collection absolument monumentale. Et donc, pour les 40 ans de cette galerie des jouets, ils ressortent près de 300 jouets, mais ils en ont 15 000 encore dans le coffre. Donc, ils en ont encore quelques-uns. On retrouve tout ce qui a fait votre enfance, messieurs, des mécanos, les Legos, les trucs, les machins, Sophie la girafe. Enfin, tous, ils y sont tous. Les héros de l'enfance, Tonton Tintin, Pinocchio, Popeye, bref. En tout cas, tout ceci est classé et ça se termine par une vitrine de jouets de designer parce qu'on est quand même au musée des arts déco avec un yo-yo de Sonia Delaunay, un chien de Keith Haring ou encore un Abastag, ce lapin robot créé en 2006. Voilà, on fait le tour complet. Ça s'appelle le coffre à jouets O-U-E-R, voilà, aux arts déco. Mille merci Stéphane Brayer, on
merci
espère
vous
retrouver très bientôt pour, en tout cas, The Good Life, c'est Good Trip, yes.
Good prestation.
Merci beaucoup Emmanuel, à la semaine prochaine. Good Luxe Paris continue dans un instant sur BFM Business.
BFM Business, Good Luxe Paris, l'édition du week-end.